Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous santé en France. La pandémie de Covid-19 a eu comme conséquence une hausse des violences faites aux femmes pendant le confinement. La plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse de 60% des appels de victimes pendant le deuxième confinement par rapport à la normale, a annoncé récemment Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté. C'est plus que lors du premier confinement, selon elle. Cette hausse était de 40% au printemps dernier, lors du premier confinement, a-t-elle rappelé. Augmentation des violences faites aux femmes, comment réagir, comment travaillent les professionnels chargés de la prise en charge des victimes. Nous en parlons ce matin avec nos invités au téléphone d'Africa Radio. Nous sommes en compagnie d'Olivia Mont. Elle est porte-parole de la Fédération France Victimes. Merci de nous rejoindre. Nous rejoint aussi Alexandra Lecard, elle est psychologue. Alors on va commencer avec vous, Olivia Mont. Bonjour. Alors comment expliquez-vous bonjour. Cette hausse des violences conjugales durant le deuxième confinement, alors que paradoxalement, il a été moins rigoureux que le premier?
Alors, ce que nous disent les chiffres, c'est non pas exactement une hausse des violences, mais une augmentation très forte des signalements de ces violences pendant ce second confinement. Et c'est assez logique, finalement, puisque pendant le premier confinement, quand vous êtes sous le même toit toute la journée que votre agresseur, il est plus difficile de dénoncer, même si nous avions mis avec des associations France Victimes en place des accueils spécifiques dans les supermarchés, par exemple, ou les pharmacies qui s'étaient aussi mobilisées. Dans ce deuxième confinement, donc un confinement moins strict, les victimes ont un peu plus de vie sociale. Les faits sont davantage révélés aux proches, aux amis, qui sont des soutiens pour le dévoilement. Et notamment, donc, c'est la raison pour laquelle on voit une hausse forte de ces signalements sur une plateforme comme Arrêtons les violences. Mais on voit aussi, on l'a vu, une hausse des appels de ces femmes victimes de violences au 116 006 que nous avons en gestion, qui est le numéro national d'aide aux victimes.
La ministre Marlène Schiappa explique cette différence par la crise économique et sociale qui se profile et un niveau de tension extrême fort depuis cet automne, avec moins de soupapes de décompression pour les gens qui devaient rester chez eux. Êtes-vous d'accord avec cette explication de la ministre?
Alors, il y a effectivement des choses justes dans cette explication. Nous sommes depuis un an maintenant dans un contexte sanitaire extrêmement difficile. Donc d'abord, je laisserai ma collègue psychologue qui parlera de ça beaucoup mieux que moi, mais on a d'un triple contexte difficile. On a cette crise sanitaire, les conséquences économiques et sociales. Mais on a aussi eu, pendant une bonne partie de l'année, un contexte de sécurité nationale, un contexte terroriste, avec l'assassinat de Samuel Paty, avec l'attentat à Notre-Dame à Nice, qui ont vraiment surajouté de la pression dans les familles, et puis un malaise et un mal-être individuel.
Bonjour Alexandra Lecard. Alors, vous, êtes-vous d'accord avec cette explication de la ministre?
Alors, effectivement, merci de le voir sous cet angle en tout cas. D'un côté, les violences domestiques et conjugales augmentent avec le confinement, ça c'est sûr. Les victimes sont piégées à la maison avec leur bourreau, qui développe sa toute puissance dans cette conjoncture. Les violences conjugales ayant lieu en huis clos. Et de l'autre côté, c'est très inquiétant, mais bon, ça l'a toujours été, évidemment, pas qu'en période de confinement. Les victimes craquent et ont peur pour leur vie, réellement, et font la démarche par leur courage d'oser sortir et demander de l'aide. Notons qu'elles ont souvent déjà fait les démarches plusieurs fois, en général, auparavant. Les victimes prennent la parole. Premier acte pour sortir de l'emprise. Mais derrière ce courage, il faut voir surtout le désespoir et la peur pour leur propre vie et parfois aussi trop souvent pour celle de leurs enfants.
Vous êtes donc d'accord avec ce que venait de dire Olivia Mont
je vais vous signaler, j'entends pas du tout en fait ce qu'a dit Olivia Mont, ça capte très mal. J'ai pas du tout entendu les échanges.
Alors en fait, elle nous a dit que du coup, durant le deuxième confinement, les personnes qui ont été victimes de violences ont plus facilement osé prendre la parole.
Tout à fait. Oui, depuis le Grenelle, et puis de toute façon, il y a quand même des mouvements avec MeToo Infest dernièrement, donc ça, évidemment, c'est bien, mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est très difficile pour les victimes. Mais oui, évidemment, elles osent plus parler, et ça, c'est formidable.
Alors, Olivia Mont, est-ce que les violences ont changé durant ce deuxième confinement ? Étaient-elles différentes ?
Alors, on n'a pas de chiffres très précis par rapport à ces typologies de violences. Ce qu'on sait, c'est que elles étaient, comme le disait Alexandra Lecard, les violences lors du premier confinement étaient extrêmement graves. Et quand les femmes victimes arrivaient finalement chez nous, c'était vraiment parce que on était au stade ultime de la violence, que la séparation était vraiment consommée et elles étaient vraiment très 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 en difficulté. Ce qui a changé très certainement avec ce deuxième confinement, c'est que ont perduré ce que disait Alexandra Lecard, la toute puissance des agresseurs, donc des violences morales, des insultes, du dénigrement qui continuent, qui sont accompagnées de violences physiques, mais aussi parce qu'il y a un tout petit peu plus de liberté, de cyberviolence, ce qu'on appelle donc des cyber, le cybercontrôle hein, par rapport aux violences conjugales, c'est le contrôle de où tu es, du harcèlement avec des SMS à n'en plus finir, ouais, etc. Donc ça a été quand même assez, assez prégnant. Et puis finalement, tout ce qui est cyber-escroquerie, les gens sont beaucoup plus devant leur ordinateur, ouais, sont beaucoup plus dans des interactions numériques. Et les cybermalveillances sont extrêmement fortes.
Et est-ce que, justement, pendant ce deuxième confinement, les violences ont été plus meurtrières ?
Alors, on n'a pas encore une vision très claire hein, des différents degrés de la violence. Ce qu'on sait, ce qui est sorti là, par rapport au nombre de féminicides, c'est qu'on a une très large baisse. Mais évidemment, c'est toujours trop. Hein. On parle de 111 femmes assassinées en 2020 contre 146 en 2019. Donc, elles sont très certainement d'une autre ampleur, d'une autre force. Mais on n'a pas encore des choses extrêmement, extrêmement précises entre le premier et le deuxième confinement.
Alors, Alexandra Lecard, y avait-il déjà, dans la plupart des cas, des violences conjugales avant le confinement, avant la crise sanitaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y avait déjà dans ces couples, par exemple, ou dans ces situations, déjà des violences qui étaient installées avant le confinement ?
Oui, évidemment, hein, les violences étaient présentes en général avant le confinement. Elles ont empiré en fait, pendant le huis clos, hein, qui a forcé le bourreau un petit peu. La personne violente a laissé libre cours à sa violence, malheureusement, puisqu'il sait que sa victime aura moins l'occasion de sortir ou d'en parler demain, après-demain, parce que le confinement perdure, malheureusement. Donc, en quoi le confinement peut permettre le développement de ces violences conjugales, c'est la violence à des filles, qu'il faut le savoir. Là, par exemple, sans sortie, les climats de tension sont accentués. Mm-hmm. L'explosion de la violence, elle est plus longue, car les bourreaux savent en fait qu'il ne va pas être interrompu. Par exemple, la victime part moins ou plus au travail, hein, y a du télétravail, elle ne va plus faire les courses après 18 heures, les activités extrascolaires des enfants indoors, à l'intérieur, sont arrêtées. Donc les cycles sont accélérés et ils s'enchaînent plus facilement. Mm-hmm. Et les périodes de lune de miel, hein, où tout est calme et où la personne violente est dans la séduction, hein, où elle essaye de réparer ses torts, sont plus courtes.
Olivia Mont, comment travaille la Fédération France Victimes ? Quelle aide apporte-t-elle ?
Alors, la Fédération France Victimes, ce sont 130 associations locale partout en France. On est vraiment sur l'ensemble du territoire français, hexagone et outre-mer. Et nous accueillons en proximité dans plus de 850 lieux d'accueil sécurisés. Et on s'adapte toujours aux demandes. Hein. Je vous parlais au démarrage de ces lieux d'accueil dans les supermarchés.
Oui.
On est des spécialistes de l'accompagnement judiciaire de toutes les violences.
D'accord.
Donc, on a vraiment...
Du dépôt de plainte.
Exactement. On va accueillir les personnes avant ou après un dépôt de plainte.
Oui.
Avant, pour les aider à avoir des informations, hein, savoir à connaître leurs droits et puis à savoir comment les faire valoir. Et puis, on a aussi, donc, on a des juristes, on a des psychologues qui vont permettre une libération de la parole et qui vont expliquer aussi un peu comment va se passer le parcours judiciaire d'un point de vue psychologique, parce que ça fait souvent peur aux personnes victimes. Et puis nous avons également des travailleurs sociaux qui vont apporter un éclairage et une évaluation de l'ensemble des besoins et des attentes des personnes victimes, parce que quand on est victime de violences, et notamment de victimes de violences conjugales, il y a énormément de répercussions sur...
Les enfants...
Sur sa vie. Alors, il y a des répercussions qui peuvent être médicales, administratives,
ouais.
mais bien sûr sur les enfants, sur la vie professionnelle, sur la vie sociale. Tout ça doit être pris en considération. Et c'est en cela que les services des associations France Victimes sont intéressants, c'est-à-dire que d'abord ils sont gratuits,
oui.
et puis ça permet de redonner un cadre aux personnes victimes qui sont très souvent extrêmement perdues dans tous ces droits, comment les faire valoir, et puis c'est compliqué, et puis il faut avoir un avocat ou pas d'avocat. Donc voilà, les 1500 professionnels des associations France Victimes sont là pour vraiment accompagner les personnes dans cette sortie des violences, surtout parce que ça, c'est vraiment très, très important, et pour donner des outils aussi à la prise de conscience. Et on a développé un outil qu'on a lancé en novembre dernier, qui
oui.
s'appelle « Mémo de vie ».
D'accord.
Avec Make.org et Chérif qui nous ont accompagnés. C'est une plateforme. Donc, c'est Memo, M-E-M-O, -2-D-E, plus loin, vie, V-I-E.org. Et sur cette plateforme, de manière très discrète, hein, parce qu'on a vraiment pris en considération toutes les contraintes de sécurité des personnes et des femmes victimes de violences conjugales, on va pouvoir décrire ce qui nous arrive. Laisser des traces d'un événement, y mettre des dates. On peut aussi illustrer ce qui se passe avec un audio, si on a du mal à écrire, avec une photo d'un bleu ou une vidéo. Et on peut regrouper aussi tous les documents qui sont importants.
D'accord.
Des documents voilà, pour pouvoir, à un moment donné, peut-être aussi sortir de ces violences et avoir cette opportunité de sortir, de demander de l'aide et d'être accompagné dans la sortie des violences.
Alors, rapidement, quel est le profil des personnes qui viennent vous voir, Olivia Mont ?
Alors, au sein de la Fédération France Victimes, comme je vous disais, on a aussi bien des personnes qui sont des victimes de violences, mais en dehors du couple, qui peuvent être des personnes qui ont été escroquées, qui ont été cambriolées, qui ont subi des accidents de circulation. Mais si on prend, par exemple, par rapport aux victimes de violences conjugales, on a vu une hausse phénoménale de plus de 30% entre les personnes victimes de violences conjugales qu'on accueillait en 2019
ouais.
et en 2020. On est passé grosso modo de 53 000 femmes et hommes. On a 50 000 femmes, on a quand même plus de 90% évidemment des victimes de violences conjugales qui sont des femmes. Hein. On est passé donc de 53 000 femmes en 2019 à près de 70 000 en 2020. Sur environ 300 000 victimes accompagnées. Donc c'est une proportion extrêmement importante qui nous fait très peur et qui nous fait très peur aussi, et notamment par rapport au confinement, par rapport aux enfants. Oui. Alexandra Lecarl l'expliquait tout à l'heure, on a eu une énorme baisse des signalements de violences sur enfants. Et ça, ça nous a inquiétés, ça nous inquiète beaucoup. Et je crois qu'il faut vraiment dire à nos auditeurs et à nos auditrices que, à partir du moment où on a un doute sur une maltraitance, sur un enfant, sur une femme qui semble être victime et qui semble être totalement sous l'emprise et sous le contrôle, de pouvoir dénoncer ces faits. Et éventuellement pouvoir donner l'information sur mes mots de vie, parce que c'est quelque chose qu'elle peut faire vraiment seule et de manière sécurisée.
Et notamment sur la plateforme de signalement dont nous vous donnerons les coordonnées dans un petit instant. Alors Alexandra Lecarl, comment aidez-vous, vous, en tant que psychologue, les femmes qui viennent vous voir ?
Alors, bah, y a l'écoute, hein, déjà, bien entendu. Hein. Ouais. Ça paraît simple, mais être entendu et cru hein, dans les violences qu'on subit, c'est déjà les faire exister. On sait qu'une des vertus de la parole et de la thérapie, c'est d'acter. Hein. Et souvent, les actions viennent après la parole, après avoir dénoncé l'horreur, en fait. Hein. Mais on peut parler aussi, bien entendu, bah, pas qu'au psychologue, hein, à ses amis, sa famille, ouais. À tous les professionnels médicaux, paramédicaux, aux associations, à la police. En thérapie, en tout cas, un patient... qui parle, c'est aussi un patient qui s'écoute, en fait, et s'entendre raconter l'horreur qu'on vit, c'est souvent un déclic. Après, on parle des options différentes, par exemple en thérapie, options thérapeutiques, éventuellement juridiques. Mais bon, le juridique, c'est vrai que c'est pas notre domaine, et on ouais. essaye de rester dans notre domaine, mais en général, on a un réseau. Donc, les psychologues, on peut être amené à donner des contacts, si le patient le demande. Et on peut en parler ensemble, par exemple. Voilà. Je rappelle aussi que les victimes n'osent souvent pas parler. Hein, les bourreaux travaillent beaucoup leur masque social, hein, leur carapace, leur apparence.
Oui.
Ils sont souvent irréprochables à l'extérieur. Hein, donc les violences conjugales s'effectuent en huis clos. Hein, ce n'est pas visible de l'extérieur. Et du coup, les victimes sont pas souvent et même rarement crues. On pense qu'elles exagèrent. Qu'elles sont peut-être fatiguées, que c'est pas ce qu'il a voulu dire ou faire. Voilà, ce genre de réaction un petit peu de déni aussi de l'entourage et de ouais. la société, hein, je pense,
ouais.
Qui vient ne faire qu'isoler la victime davantage. Bon, après, on les comprend aussi, hein, les victimes, les violences conjugales, on l'a dit, s'exerçant en huis clos et ne sont pas visibles de l'extérieur, donc c'est pas facile pour l'entourage non plus. Mais voilà, encore une fois, c'est encore plus dur quand même pour la victime. Donc ne pas hésiter à croire quelqu'un qui commence à dénoncer des petites choses comme ça, être à l'écoute et attentif.
Alors, comment les enfants réagissent face aux violences conjugales ? Sont-ils traumatisés ?
Ah oui, bien sûr. Ils sont traumatisés, hein, c'est le mot. Il y a le climat, déjà, de violence. Hein. Les tensions. Alors, il y a des mots, des insultes, ouais. des cris, ouais. Des comportements agressifs, des jets d'objets, des coups, évidemment. On pense toujours au coup, mais voilà, il n'y a pas que ça. La victime peut être poussée, battue, évidemment, giflée, étranglée hein, par la personne violente. Donc c'est autant de comportements et d'intentions hein, qui viennent traumatiser l'enfant et qui l'enferment dans la peur, l'isolement bien sûr, le mutisme souvent et l'agressivité. En fait, il y a plusieurs catégories d'enfants face aux violences.
Ouais.
Il va y avoir des enfants protecteurs, il va y avoir des enfants agresseurs aussi. Et bien sûr, donc des enfants victimes. Dans toutes ces catégories, on observe des troubles du comportement, ça c'est sûr, chez les enfants. Pour en citer quelques-uns, si vous voulez. Les neurésies, hein, pipi au lit, le maux de ventre,
oui.
L'eczéma, bien sûr, l'anxiété extrême, la peur que la mère décède, vous imaginez, la oui. culpabilité, la dépression, évidemment, les chutes des résultats scolaires, les fugues et les états de stress post-traumatique. Hein.
Ils sont nombreux. Rapidement, en deux petites minutes, comment doit-on traiter les conjoints violents ?
Alors, ben ça, c'est la bonne question.
Est-ce qu'il y a des prises en charge ?
J'aimerais bien qu'on en parle plus, ça c'est sûr.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des prises en charge ? Oui, il y en a. Après, ce qu'on dénonce un petit peu aujourd'hui, c'est qu'elles sont un petit peu tardives,
ouais.
ça c'est sûr. Il y a un manque de moyens. Alors, il y a des stages pour les personnes violentes. Bon, à mon sens, elles arrivent vraiment tard, à la fin d'un processus. J'ai l'impression que c'est un peu le stade final. Bon, à mon avis, il faudrait que ces stages aient lieu au tout début, au premier signalement. Enfin, c'est des stages de quelques jours. Hein. Après, il faudrait, à mon avis, des injonctions de soins obligatoires, comme pour les pédophiles. Bon, évidemment, depuis le Grenelle, on a parlé du bracelet électronique. Bon, à mon avis, ça, c'est la question. Hein. Parce que aider les victimes, c'est traiter les auteurs aussi. Et je vous remercie de poser la question, parce qu'on n'en parle pas assez, à mon sens.
Absolument. Alors, il existe donc ce numéro 3919, c'est le numéro d'aide aux femmes victimes de violences. Les femmes sourdes et malentendantes peuvent envoyer un SMS au 114, c'est un numéro d'urgence où un interlocuteur peut se charger de prévenir les forces de l'ordre pour une intervention si besoin. On peut également se connecter via la plateforme Arrêtons les violences qui permet de rentrer en contact via un chat avec un gendarme ou un policier spécialement formé à traiter les cas de violences conjugales. Les interlocuteurs sont donc disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et l'utilisation de cette plateforme ne laisse pas de traces dans l'historique du navigateur. Donc c'est important aussi de le rappeler également qu'on peut en parler à son médecin de famille, hein. Son médecin traitant, la Haute Autorité de Santé a publié pour la première fois des recommandations sur les violences faites aux femmes. Elle propose un guide à destination des médecins et des professionnels de santé. Les recommandations émises ont pour but de les aider à mieux repérer les potentielles victimes, les conseiller et les orienter. Le cas échéant, rappelons également, vous l'avez souligné, vous avez bien fait de le faire, que nous sommes tous concernés par ces situations. En tant que témoin, voisin, on peut également utiliser la plateforme de signalement pour alerter les autorités tout en gardant l'anonymat. Alors, merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Je rappelle, Olivia Mont, que vous travaillez à la Fédération France Victimes vous, Alexandra Lecard, vous êtes psychologue. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté cette invitation sur l'antenne d'Africa
Radio. Merci à vous.
À très bientôt
dans
un instant.